France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Mais à quoi vont donc ressembler les vacances des Français? Et que va devenir la destination France, d'habitude si prisée des étrangers? Des vacances cette année comme une parenthèse entre deux vagues de pandémie, d'épidémie. On en parle ce matin avec nos deux invités. Maria Gravary Barbaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Les Restes, c'est l'équipe interdisciplinaire de recherche sur le tourisme. Vous êtes aussi professeure de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes aussi l'une des coordinatrices de la chaire UNESCO Culture Tourisme et développement. À vos côtés, Jean-François Rial, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Voyageurs du Monde et aussi président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Bonjour à tous les deux. Une question d'actualité d'abord, peut-être à vous pour commencer, Maria Gravary Barbaz. Comment est-ce que vous avez réagi aux propos d'Olivier Véran hier, redoutant un retour épidémique dès cet été et non plus en septembre? C'est une catastrophe pour les observateurs du tourisme?
C'est difficile parce qu'en fait, personne ne sait comment se positionner. Il est très difficile de planifier ses voyages. Pour les professionnels, cela devient également compliqué. Je pense que un des premiers problèmes, c'est justement de ne pas savoir comment s'organiser. Et on le voit au niveau des réservations, les personnes attendent vraiment la dernière minute pour réserver leur voyage. Il y a une énorme incertitude. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas comment l'horizon se profile, il est très difficile de s'organiser, à la fois pour les touristes et pour les professionnels du secteur.
Jean-François Rial, le tourisme et l'incertitude, ça n'a jamais fait bon ménage?
Non, ça fait bon ménage avec personne, d'ailleurs, l'incertitude. Néanmoins, quand même, Maria a raison, mais depuis 6 semaines, 7 semaines, le niveau des réservations, que ce soit vers la France, vers Paris ou vers l'étranger, dans l'autre sens, sont quand même très élevés. Hein. On est au niveau de ce qui se passait en 2019.
C'était une bonne année.
Et qui vient à Paris alors? Quelles sont les nationalités?
Paris, c'est un peu plus compliqué que le reste de la France parce que déjà vous êtes en basse saison l'été. Hein. C'est un véritable paradoxe, mais. Ouais. C'est comme ça, l'été n'est pas la haute saison de Paris. Néanmoins, vous avez quand même pas mal d'Européens qui reviennent. On va fonctionner normalement cet été à peu près sur Paris, à peu près à la moitié de notre nombre de visiteurs habituels.
C'est 30 millions d'habitude, hein, à peu près.
Non, c'est 10 millions l'été.
Ah, 10 millions l'été, je parlais pour l'année. Hein. Je parlais sur l'année.
Oui, vous avez raison. Mais on va dire, on va raisonner sur l'été, parce que là, sinon sur l'année, ça n'a pas grand sens avec si c'est un début d'année. On est à 10 millions d'habitude, on en a eu 1,7 million, 1,8 million l'année dernière, et on espère en faire 5 millions cet été. Donc quand même, c'est pas si mal. Hein.
Mais il y aura aussi des Américains, des Japonais,
oui, alors des Japonais et des Chinois, non. Des Asiatiques, non. Des Sud-Américains, très peu. Mais par contre, des Américains, oui, absolument. Et beaucoup d'Européens, mais pas d'Anglais. Pas d'Anglais, évidemment. Par exemple, évidemment.
Maria Gravary Barbaz, est-ce que l'on sait de façon un peu plus générale ce que la crise sanitaire a modifié dans le choix des destinations des touristes dans le monde?
Alors, je pense que le changement essentiel, c'est le fait que les frontières qu'on avait pensées, espérées, imaginées, abolies, sont revenus un peu de force. Donc on réalise que nous vivons dans des pays qui sont différents, qui ont des règles différentes et qui imposent finalement des modalités de voyage qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est pour moi, et en tant que géographe aussi, c'est vraiment les grands retours des frontières. Et nous les voyons lorsqu'on voit par exemple la carte mondiale où les Français sont invités à y aller plus facilement ou où ils sont déconseillés. On voit très bien finalement l'Europe, une grande tache verte. L'Europe élargie, pas seulement la communauté européenne. On voit le nord de l'Amérique, on voit l'Australie et le reste du monde est rouge ou orange. Des continents entiers, l'Afrique, elle est rouge et orange. L'Amérique latine, elle est rouge et orange. Donc ça modifie effectivement énormément la façon dont on voyage et dont on perçoit notre rapport au monde. Évidemment, c'est passager et je pense que c'est quelque chose qu'on ressentira beaucoup cet été, qui est un été intermédiaire, en espérant un retour à la normale.
Mais qu'est-ce que c'est que la normale prochaine. La normale va peut-être changer aussi pour des raisons autres, c'est-à-dire des raisons écologiques.
Bien sûr, absolument, c'est tout à fait souhaitable.
On va en parler de ce tourisme écologique et durable dans un instant. J'ai relevé une étude de l'assureur Allianz Travel qui nous dit que 3% seulement des Français iront voyager à l'étranger hors des frontières européennes. Ce taux, 3% seulement hors des frontières européennes, c'est particulièrement peu cette
oui.
année.
Oui, oui, bien sûr. Par rapport aux autres années. C'est particulièrement peu. C'est particulièrement peu. Il y a des pays qui ont été tout à fait privilégiés par les Français, des pays asiatiques, par exemple, qu'aujourd'hui ne sont pas facilement praticables. Donc oui, c'est très limité. Et on voit finalement l'intérêt d'un pays comme la France d'être en Europe, d'une certaine façon. Parce qu'il y a des déplacements européens
beaucoup
qui sont...
Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols.
Absolument, absolument. Des déplacements de proximité. Il y a un Sud européen aujourd'hui qui est très privilégié par ces nouvelles modalités de voyage. La Grèce, l'Espagne, le Portugal. Bon, même le Portugal, s'il est de nouveau un peu... s'il instaure de nouveau un couvre-feu, c'est vrai que ça amène certaines incertitudes nouvelles. Mais je veux dire, il y a une logique des frontières. Il y a aussi une logique finalement des pays et des proximités par rapport à certains pays qui peuvent profiter davantage des bassins émetteurs de touristes.
Jean-François Rial, cette pandémie, elle a fait apparaître un monde d'avant et un monde d'après, dans le tourisme aussi. Comment le tourisme va devoir s'adapter à de nouveaux usages? Dans quel registre? Dans quel secteur? Quel segment?
C'est un peu une question que tout le monde pose, mais à mon avis, on n'y apporte pas la bonne réponse. C'est-à-dire que penser que post-pandémie, le tourisme va changer...
Nous ne deviendrons pas des touristes responsables ?
Moi qui suis un écologiste archi-engagé, archi-convaincu, oui. Je n'y crois pas une demi-seconde à cette fable. Je pense que c'est pas du tout ce qui va se passer. Qu'au contraire, la frustration des voyages... Je pense qu'il y a deux choses qui ont frustré les gens dans cette pandémie. C'est plus aller dans les bars et les restaurants et ne plus voyager. Bien sûr, toutes les activités culturelles ou autres ont été aussi très pénalisées. Mais je dirais que ce qui a le plus pesé dans la tête des gens, quand on parle avec eux, on voit très clairement que c'est ça. Donc moi, je pense qu'à court terme, il va pas se passer grand-chose de nouveau. Je le regrette, mais c'est ce que je pense. Par contre, à moyen long terme, je dirais qu'un tourisme responsable, écologique, ça ennuie pas mal de mes confrères, mais des opérateurs touristiques, etc. Parce qu'ils sortent d'une période catastrophique sur le plan économique, donc ils n'ont pas envie qu'on les contraigne encore plus. Mais en même temps, le tourisme écologique, le tourisme durable, c'est plus une option. Si vous voulez, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est pas spécifique au tourisme. Je dirais que toutes les activités économiques, quelles qu'elles soient,
jusqu'au manger.
Au manger en priorité. Mmh. Je suis moi-même un agriculteur biologique, donc je sais de quoi je parle. Il y a plus d'options, si vous voulez. On peut pas continuer comme ça. On vient de voir cet exemple spectaculaire de ce qui vient de se passer au Canada, mais ça fait très longtemps qu'on le sait. Donc à un moment donné, les citoyens, les entrepreneurs, les politiques, tout le monde, doit faire sa révolution mentale. Alors, on ne peut pas faire autrement.
Il y a eu cette semaine à Paris les assises du tourisme durable Paris. Vous en étiez l'un des organisateurs, Jean-François Rial. Le tourisme durable à Paris, ça se décline comment ?
Ça se décline de plein de façons possibles, mais je dirais que déjà il faut qu'on utilise des mobilités douces maximales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on opte, par exemple cette histoire de piste cyclable et de vélo qui a été mise en place à Paris et qui va poursuivre son développement, il faut que tous les visiteurs de Paris aient accès à ces outils de façon très très simple et très rapide, sans passer par des usines à gaz, d'abonnements complexes, ce qui est le cas aujourd'hui, on peut faire ça de façon très très simple, mais aussi par exemple utiliser l'axe Seine. On comprend pas que dans cette ville qui est une des villes les plus denses au monde, dans lesquelles on a des problèmes de pollution, des problèmes de CO2, des problèmes de particules fines, parce que ce qui est très grave dans la ville comme Paris, c'est les particules fines, ça vous tue bien plus que le Covid. On parle du Covid tout le temps, mais les particules fines, c'est beaucoup plus grave. On vient de s'apercevoir que les freins, par exemple, génèrent un nombre de particules fines délirant. L'axe Seine, naviguer sur la Seine, à la fois en tant que touriste, mais aussi en tant qu'habitant, en mettant des vaporetto à la vénitienne, électriques, et qui vont plus vite, c'est fantastique, parce que vous circulez et vous émerveillez vos yeux. Simplement, il faut que la préfecture de police sorte de son carcan, de la vitesse maximale autorisée, qu'on puisse faire des appontements corrects, etc., etc. Moi, je trouve ça invraisemblable, ça c'est un de mes grands chantiers en tant que président de l'Office du Tourisme de Paris, que depuis 30 ans, on ne puisse pas circuler comme avec un bus électrique rapide sur la Seine à Paris. C'est incroyable, quoi. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. Et on vous parle toujours des contraintes, mais jamais des solutions. Et à un moment donné, il va falloir qu'on trouve des solutions.
Mais parmi les contraintes, en tout cas parmi les aspects négatifs, quand on évoque le tourisme à Paris, il y a celui d'avoir fait de la ville de Paris une ville pour les bus à touristes japonais. C'est une critique qui existe encore, ça ?
Alors, oui, elle existe encore. Mais je dirais que ça va disparaître parce que d'abord, en 2024, il va être interdit de circuler en diesel dans la ville.
Je ne parle pas simplement du diesel, je parle de ces bus qui dénaturent les rues.
Bien sûr. Et puis surtout, il y a tout un plan et qu'il faut qu'on mette en place avec la profession. Alors, la fédération des bus nous crie dessus. Mais on veut pas les tuer, on veut juste mettre en place avec eux des systèmes qui permettent à moyen terme de garer les bus dans des endroits adaptés aux portes de Paris et de circuler avec des mobilités plus douces à l'intérieur de Paris. Mais ça peut pas se faire du jour au lendemain de façon dictatoriale. Et il faut qu'on discute avec ces gens, avec ces opérateurs, avec les contraintes. Mais il est évident que les bus qu'on voit sur le boulevard Rochechouart vers Pigalle ou aux Invalides ou vers le Grand Palais qui sont tous garés les uns contre les autres, c'est plus possible. Ce n'est plus possible.
Comment est-ce qu'on arrive à Paris ? Souvent c'est en avion, là aussi pour l'industrie aérienne, il y a un sacré problème. Je vois que vous me faites les gros yeux.
Non, pas du tout, au contraire,
j'adore ce sujet. Est-ce qu'on aura des solutions
pour
absorber les émissions de dioxyde de carbone et pour faire un voyage vertueux ?
C'est très intéressant cette histoire d'avion, parce que si vous voulez, sur les histoires de transformation écologique, en gros, on tape sur l'avion et on tape sur la viande. Très bien. Et moi, dans mon secteur, je dis à mes confrères, l'avion, on doit faire autant que les autres. Pas plus, mais autant. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans le plan climat de Paris. C'est-à-dire qu'on doit réduire nos émissions de 50% en 10 ans et de 100% en 30 ans.
Donc, et ça c'est plus, jouable, c'est jouable ou c'est juste une vue de l'esprit ?
On y vient. La spécificité de l'industrie aérienne, c'est qu'on ne peut pas le faire en transition technologique en 30 ans. On ne peut pas. On peut faire une partie du chemin par des économies essentiellement, diverses et variées, sur lesquelles je vais parvenir. On va dire qu'on pourrait peut-être faire la moitié du chemin, oui, pas beaucoup plus. Et donc, puisqu'on ne peut pas faire toute la transition technologique de l'avion, mais qu'on doit quand même être en carbone neutre, ben, y a deux solutions. La première, c'est vous ne voyagez plus en avion. C'est ce que proposent certains écologistes un petit peu...
Radicaux,
j'allais dire ayatollahs, mais ça aurait pas été gentil pour eux, parce que je comprends leur point de vue, c'est pas le mien, mais je comprends leur point de vue. Et puis il y en a une autre qui est de dire l'industrie aérienne est une des rares qui ne peut pas faire sa transition écologique en 30 ans, elle doit quand même l'accélérer pour faire un maximum d'économies techniques aisées variées,
on la met pas par terre économiquement déjà.
Voilà, mais en même temps, elle doit respecter ses objectifs, donc elle doit avoir le droit d'avoir des crédits carbone plus que les autres, et donc de faire ce que j'appelle de la compensation vertueuse. La compensation vertueuse, vous savez, la compensation, c'est énormément critiqué. Le droit de polluer, le ceci, le cela. Ça dépend comment vous le faites. Si vous faites de la compensation qui est de l'absorption de carbone, et que cette absorption de carbone, vous pouvez garantir son additionnalité et sa pérennité sur 50 ans, eh bien, c'est de la vraie absorption. Et c'est ça que moi je propose. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'industrie aérienne, le GIEC a prévu des crédits carbone pour des activités qui ne pourront pas faire leur transition totale, en particulier l'agriculture, hein, c'est crucial l'agriculture, évidemment, faut qu'on mange. Eh bien, moi je revendique pour l'industrie aérienne cette quote-part de crédit carbone pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je suis ni dans la position d'une partie de mon industrie qui dit « circuler, rien à voir, on n'émet que 3% », moi je trouve cet argument complètement inadapté, ni dans celle de mes amis écologistes radicaux, parce que tous les écologistes ne sont pas comme ça, qui disent « il ne faut plus voyager en avion ». Mais par contre, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit dans les critères, moins 50,
avec
moins 100.
Avec une voie médiane.
Nous, par exemple, dans mon entreprise, juste à titre d'exemple, on fait du 100% par absorption du carbone depuis plusieurs années. Tout de suite.
Maria Gravary-Barba, si on se projette dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qui va changer profondément dans le tourisme? Vous arrivez à projeter, à avoir une vision? Alors ça va peut-être des destinations qui vont changer jusqu'à la durée des séjours qui sera peut-être encore plus fragmentée. Quelle projection vous faites quand vous regardez le tourisme dans 10 ans?
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui est vraiment souhaité par plusieurs consommateurs, plusieurs touristes, et c'est vrai que un développement durable du tourisme, et je préfère parler des développements durables du tourisme que du tourisme durable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement ancré dans la conscience.
Quelle différence vous faites entre les deux?
Eh bien, ce n'est pas le tourisme lui-même qui est durable, c'est en fait le tourisme...
Dans une logique globale de développement.
Impacte durablement, oui. Finalement, les territoires dans lesquels il s'implante. Donc, je pense qu'il y a une volonté de la part des consommateurs pour qu'il y ait un changement dans la façon dont on pratique le tourisme aujourd'hui, notamment de la part de pays où le tourisme est une industrie ancienne et où donc le tourisme se pratique depuis fort longtemps. C'est très difficile de parler de façon générale parce que entre les pratiques touristiques des Européens et les pratiques touristiques de ces nouvelles clientèles qui accèdent au tourisme depuis peu longtemps, il y a un écart énorme et on ne peut pas généraliser. Parfois, en fait, on parle plutôt de ce qu'on a envie de dire que de ce qui se fera véritablement. Et on voit aujourd'hui que...
Mais vous avez envie de quoi alors?
Moi, j'ai envie vraiment d'une prise en compte réelle. Et quand on parle de prise en compte réelle, on parle de prise en compte véritablement politique, avec des véritables mesures qui soient véritablement contraignantes et qui permettent donc d'atteindre les objectifs que vous évoquiez tout à l'heure.
Avec un quota, à la limite, j'exagère évidemment, mais un quota de voyage par personne et par an, par exemple?
Alors, pas forcément un quota de voyage par personne, mais moi je le vois dans mon secteur, à l'université. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas aller n'importe où pour 2 jours pour un colloque et qu'il y a des alternatives et que ces alternatives doivent être explorées avant de sauter de l'avion pour aller donc en Amérique du Nord pour un colloque de 2 jours. Donc on a cette conscience aujourd'hui et elle concerne désormais tous les secteurs. Donc moi, ce que j'attends véritablement, c'est des vraies prises de position politique. On le voit sur certains territoires. J'ai suivi les assises du tourisme et là, on voit clairement qu'il y a une volonté de la municipalité, il y a clairement une volonté de la maire de faire en sorte à ce que le développement du tourisme soit durable. Ce n'est absolument pas le cas de tous les territoires. Et on voit des situations qui sont totalement contrasté et qui craignent à ce qu'on se retrouve dans un retour à la normale avant Covid, donc un business as usual, que malheureusement personne ne souhaite aujourd'hui.
Mais Jean-François Rial, il nous reste quelques secondes. Vous vouliez commenter peut-être?
Juste
pour vous demander, est-ce qu'on va continuer d'opposer dans les années qui viennent le tourisme de masse au tourisme de développement durable?
Moi, je suis très sceptique quant au tourisme de masse. Je pense que c'est quelque chose qu'on emploie par facilité et scientifiquement, cela ne veut pas dire grand-chose.
Moi, j'adore ce que vient de dire Maria. Parce que nous, en plus, je suis d'autant plus crédible que franchement, nous, le tourisme de masse, ça n'existe pas dans notre entreprise. Mais si vous voulez, le tourisme de masse, ce qu'il faut réussir à faire, c'est du tourisme populaire qui ne soit pas du tourisme de masse. Et ça a existé pendant des années. On n'a pas pu s'empêcher d'envoyer les gens tous au même endroit, au même instant, au même moment.
Sachant qu'il y a des gens qui ne partent jamais en vacances, qui n'en ont pas les moyens. Ça existe.
On n'en a pas parlé, mais on aurait pu aussi demander des chiffres sur tous ceux qui ne partent pas en vacances. Mais malheureusement, je vous coupe et je vous...
Dommage.
Dommage. Il faudrait qu'on fasse un téléphone sonne d'une heure.
Faut
je suis un peu le maître des horloges ici et là, et le temps est imparti, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu parler du tourisme ce matin sur France Inter. Il est 8h39.